Bonjour. Donc j'ai repensé à ce qu'on avait. Donc le premier jour, on s'est plongé dans le la pratique zen, c'est de expérimenter l'unité de toutes choses. Et on avait élaboré ça avec différents exemples. Et c'est ça, c'est s'éveiller à la non-dualité, l'interdépendance de toutes choses. Et le deuxième jour, on a revu l'histoire de Zen un peu pour situer où on est, quelles sont les particularités, que c'est pas vraiment, enfin c'est considéré comme une école de bouddhisme, mais ce n'est pas vraiment. On a regardé tout ça. Hier, on avait évoqué une particularité encore. Donc, il y avait un total, et puis à l'intérieur il y avait une autre, et puis à l'intérieur il y avait cette particularité qui est les Corans. Dans une certaine tangent du zen. Et ça nous amène aujourd'hui à, ça me semblait important de regarder un peu ce que c'est les rituels et les formes. Quel est le sens de ces rituels et toutes les formes? Parce que on est entouré, on est plongé dans toutes ces formes et rituels, que ce soit ce que nous on fait ici, ce qu'on avait fait ce matin, ce qu'on fait à table quand on mange le soir, toutes les formes et rituels. Car ça peut être un peu incompréhensible, ça peut nous paraître étrange, ça peut. On peut se reculer, confronté à ces formes et ces rituels. Je sais que moi-même, la première fois que je suis arrivée dans une retraite zen, je ne connaissais rien du tout, personne ne m'avait dit quoi que ce soit. Je suis arrivée, c'était l'été, c'était dans une communauté qui était plutôt stricte, donc ils avaient tous les robes noires. Moi, je suis arrivée en short et t-shirt et je ne savais pas que personne ne m'avait dit. Et on m'a acceptée parfaitement. Mais le soir, quand il faisait très, il n'y avait plus de lumière, il y avait juste des bougies et tout le monde commençait à chanter ces trucs. Et quelqu'un de je ne sais pas où, parce qu'on était face au mur, donc je ne voyais pas. Et j'entendais cette voix qui disait éveillez-vous, éveillez-vous. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'entendais que quelqu'un arrivait après et allumait l'encens. Je ne savais pas très bien ce qui se passait. Et puis tout le monde se prosternait. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et ce n'est pas qu'on a forcément besoin d'une explication, mais ça peut nous aider de vivre avec et voir les rituels et les formes partout, à chaque instant. Les formes, évidemment, parce que notre monde, c'est le monde des formes. Et on ne peut pas ne pas, on est une forme. On ne peut pas ne pas être parmi et être en forme. Bon, en français, on a cette expression être en forme. Mais c'est un peu une dérivée du fait que on est en forme tout le temps. Alors, il y a différentes façons d'aborder. Que des formes sont juste, toutes les différentes formes sont juste une expression de ce qu'on avait dit le premier jour, la nature essentielle de toute chose. Et c'est pas que la nature est dedans. c'est pas qu'à l'intérieur de nous, il y a cette nature. C'est que la forme est nature, c'est juste une expression de cette nature. Cette nature a pris cette forme-là. Et j'aime bien... j'ai vu hier soir que, je sais pas, c'était à 20h, ou je ne sais pas quelle heure c'était, j'ai regardé ma téléphone et il disait qu'ici, il neigeait. Je n'ai pas pu de ma fenêtre voir, mais bon. Et donc, j'ai commencé à penser à la neige. Et j'ai pensé à une sorte de dharma de la neige. Comme on sait que chaque... on a cette courant, une histoire en zen où on dit « beautiful snowflakes », merveilleuses flocons de neige. Ils ne tombent pas dans un autre endroit. Chacun tombe parfaitement dans son endroit. Deux flocons ne tombent pas dans le même endroit. Et on sait que si on regarde sous le microscope, on sait que chacun est complètement unique. Les cristaux sont formés d'une façon unique. Un jamais va être reproduit. C'est aussi le cas pour nous. On est chacun un flocon totalement unique, d'une même nature, qui ont la même nature. Alors, on sait aussi que la neige, c'est juste une autre expression de l'eau. C'est une expression des nuages, c'est une expression de la pluie, c'est une expression d'un flac d'eau, c'est l'expression de la buée sur les vitres, de la vapeur qui est dans la cuisine. Du verglas, de l'eau fraîche, de l'eau de robinet, l'eau salée, rivière, source, eau minérale, flocons, tout ça, c'est différentes expressions d'une même nature, disons. Et on peut même dire que, comme Thich Nhat Hanh, que quand il voit une feuille, il voit non seulement l'arbre, mais son verre d'eau. Parce que dans la feuille, on sait que ça vient des arbres, et les arbres viennent de la terre, viennent du soleil, viennent de l'eau, etc. Alors, on peut voir les formes de cette façon-là. Il s'exprime quelque chose qui est insaisissable, on peut dire, qui est cette nature. Mais si on s'arrête aux formes, on ne verra pas. Si on s'arrête aux formes de cet arbre, on n'aura pas l'expérience, comme Herb nous expliquait, pour ceux qui étaient là ce matin. Ce qu'il nous expliquait, c'est que cet arbre est reconnu par un prêtre shinto japonais comme habité par un esprit autre, un esprit divin, disons. En japonais, on appelle ça un kami. Alors, si on s'arrête jusqu'à cette forme d'arbre, moi j'ai demandé après, mais c'est quoi comme arbre? Personne n'a pu me répondre. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme arbre?
C'est un être.
C'est un être? Ok. C'est intéressant. C'est un être. en anglais, ça ne marche pas. Mais, donc, si on s'arrête juste, ah, c'est un être, ça, quel âge, qui l'a planté, quelles sont les feuilles, comme j'avais dit l'autre jour, hein, à propos du soleil, ben, on va passer à côté de cette nature de cet arbre, de ce qui l'anime. Bon, le prêtre Shinto identifiait ça comme un esprit divin. Dans le Japon, dans la tradition japonaise, effectivement, ils ont certaines choses qui désignent comme étant kami, donc étant habité par cet esprit, mais c'est aussi élargi en disant que tout objet, toute personne, toute plante, etc., est divine, est habité par ça, par cette nature qui est unique. Qui est partagé par tous. Alors, ça, c'est une façon qu'on peut aborder les rituels. les formes, disons. On ne va pas encore aller à les rituels. Car les formes sont à la fois non, bon, on va pas aller là. Donc, nous avons cette forme, n'est-ce pas? Chacun a un corps et qui est unique, comme j'ai dit, et précieux. On essaie de s'en occuper pour que on peut se mouvoir dans cette univers, dans ce monde, et cette communauté, cette société, pour pleinement vivre la vie qui anime cette forme. Et cette forme aussi est vivante, on sait. Si on se limite juste aux formes et on ne voit pas au-delà, si on s'identifie avec cette forme, on voit les dérives que ça peut faire. Évidemment, on ne veut pas que cette forme, meure, mais ça va mourir. Et on voit avec l'âge que ça est transformé. La forme se transforme parce que c'est vivante. On a toutes sortes de choses où on veut arrêter la transformation, on veut la limiter. On veut intervenir avec la transformation naturelle, on veut altérer la forme en intervenant, etc. Ça, si on s'identifie avec ça, encore une fois, on va passer à côté de ce qui est cet autre aspect, de ce qui nous anime tous, de cette nature propre. Cette nature de toute chose. Ce qu'on peut appeler quelque chose d'impersonnel. La forme est très personnelle et cette nature est impersonnelle. C'est une façon que, dans notre langage, qu'on peut voir ça. Et alors, les rituels qu'on a, que ce soit à table dans la salle à manger, que ce soit notre ryoki, que ce soit s'asseoir d'une certaine façon. Aujourd'hui, je demandais qu'on se retourne et on fasse dans l'autre sens pour expérimenter une autre expérience, une autre forme, un autre rituel. Et une façon de regarder les rituels Moi, c'est l'écrivain français Georges Bataille qui m'avait réveillé à ça, mais ce n'est pas unique à Bataille, hein, mais c'est parce qu'il a écrit beaucoup sur le sacré et sur les rituels, Bataille. Il est aussi connu pour écrire des choses très scandaleuses, mais l'érotique, etc. Mais d'une certaine façon, ça joigne toute sa recherche sur les rituels et les sacrés. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui connaissent Bataille. Ou, non. Toi, tu... bon. Et donc, dans un de ses livres qui s'appelle « L'expérience intérieure », il avait une expérience profonde de Bataille, une expérience spirituelle très profonde. Il parle de, justement, le rituel en étant, je vais vraiment résumer ça, en étant le lieu, le moment où tous ces individus personnels ont la possibilité d'expérimenter l'impersonnel, d'expérimenter, on peut appeler ça l'absolu, on peut appeler ça l'unité. Bon, par exemple, quand on chante, tout le monde a les mêmes paroles. On est censé joindre notre voix, chacun met sa voix, et on cherche à... Tout le monde chante les mêmes choses au même moment, et on essaie de trouver une harmonie en ça. On laisse tomber notre idée de comment il faut chanter, à quelle vitesse, de quelle manière, quels mots il faut dire, à quel moment. Et on laisse à côté notre personnel pour se joindre et avoir cette expérience de l'impersonnel. Et si on le fait vraiment, si vraiment on se donne entièrement à ça, on a une expérience autre que si on chantait toute seule ou si chacun chantait comme il veut. Et parfois dans les communautés, je sais qu'autrefois quand je vivais dans une communauté, la cuisine était au premier étage et le zendo était au deuxième étage. Et donc parfois quand on était dans la cuisine et les gens chantaient pour rituel, pour finir, pour manger, etc., il y avait une femme qu'on entendait toujours, on entendait le groupe plus ou moins, il y avait une femme qui n'était pas la personne qui était censée être le maître des chants. Hein. C'était quelqu'un qui chantait faux, très faux, enfin on dit faux. Mais ce qui se passait, c'est qu'elle elle voulait imposer sa voix. Et c'était inconsciente. Ce n'était pas qu'elle cherchait à être entendue par tout le monde. Mais d'une façon inconsciente, c'était ça. Et donc, on savait toujours quand cette femme était présente, hein, parce qu'on l'entendait. Pour moi, c'était parlant dans cette histoire de personnel et impersonnel. Parce qu'elle venait faire le rituel, mais avec sa personne. Elle voulait imposer sa personne d'une façon inconsciente. C'était une personne pas du tout qui cherchait à être le meilleur, etc. Ou quand on marche, par exemple, on est censé, il y a un rituel, on est censé tous marcher de la même façon, la même vitesse, on fait le même parcours, on va nulle part en fait. C'est le seul moment de notre vie où on marche, mais sans chercher à aller quelque part. Sauf un pas avec l'autre autour de la pièce. Mais quand je suis venue la première fois dans une retraite, justement, où personne n'expliquait quoi que ce soit, on me dit, OK, maintenant il faut marcher lentement. Donc, je marchais lentement. Et à un moment, il y avait quelqu'un, un moine, un seigneur, qui était à la porte. Et il m'a fait comme ça, il m'a fait sortir. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait cette rituel? J'ai dit, ben non. Et il m'a dit, parce que tu marchais trop lentement. C'est-à-dire que tout le monde attendait derrière moi. Mais je ne savais pas. Donc, c'était pas. Je marchais comme je pensais qu'il faut marcher. Je marchais à ma façon. Et si on fait ça, bah, il y aura des décalages, il y aura des espaces, il y aura des. On va trébucher. Mais si on dit OK, c'est comme ça, et on va tous marcher de la même façon, c'est très, très lisse. Il n'y a plus du tout une personne qui bloque tout le monde. Moi, je ne me suis même pas rendu compte que tout le monde était derrière la jeune femme en short et t-shirt. Alors, j'étais horrifiée quand il me dit ça. J'étais horrifiée. J'avais presque plus envie de rentrer et revenir dedans. Mais je me suis dit, non, mais attends, non. Je lâche ma personnelle, ma personne, et je me mets avec des autres. Un autre exemple, c'est quand. Donc, pendant 3 jours, oui, pendant 3 jours, on était face aux autres. Et ce matin, j'ai demandé qu'on soit face au mur. Quand on est face aux autres, on est, je dirais en anglais, the many. Le tous, le tous. Comment dirais-je traduire ça? Oui, le plusieurs. Le multiple, voilà. Le multiple, peut-être, oui. Voilà. Et on est confronté à ça, à toutes ces différentes formes, les façons de s'asseoir, les habits. Bon, si on était dans un cadre zen traditionnel, tout le monde sera en noir. Certaines Zendo, personne peut être sur une chaise, tout le monde en lotus, etc. Tous les coussins et tout sera pareil. On est face aux autres, on est confronté au monde, tous les phénomènes, toutes les possibilités du monde. Et puis, on se retourne et, oups, on est face au 1. J'avais dit face au mur, c'est ça l'héritage de Bodhidharma, c'est face au mur. Et donc, on est face au 1. Alors là, on est vraiment laissé avec nous-mêmes, face au mur. Bien que, comme j'ai remarqué hier soir quand on parlait de ça, personne n'est vraiment face à un mur ici. Quand même, ça change. On n'est pas face aux autres. On est face à soi-même. Bon, là, vous avez tout un décor, j'imagine que vous pouvez vous perdre dedans, et là aussi. Mais là aussi, hein, on peut se perdre dans tous ces dessins, tout ça, etc. Le fait est que on n'est plus dans le multiple, mais dans le un, quand on se retourne comme ça. Et c'est une autre expérience. Et ça revient, quand on est dans le multiple, c'est le personnel. Et dans le un, c'est l'impersonnel. Comme dans les rituels. Ce matin, quand on avait fait cet rituel, tout le monde était invité à. Bon, d'abord, c'était le un. Tout le monde était censé chanter ensemble. Bon, comme nous, on savait pas très bien ce qu'on faisait, le chant était un peu chaotique pour nous, mais. J'imagine que quand il y a des gens qui savent, ils font tous pareil et c'est comme ça. On ne connaissait pas très bien le rituel. Catherine m'a invitée à participer. Je ne savais pas très bien ce que je faisais, donc je copiais sur elle et tout. Et puis, à un moment, on nous a invités à tourner autour et danser, faire des choses. Nous, on ne savait pas très bien quoi faire, mais eux, oui. Bon, ils dansaient chacun à sa façon. Chacun faisait quelque chose. Donc c'était the many de nouveau, le multiple. Mais ça faisait partie du rituel. C'était un moment précis dans le cadre où ça se passe. Nous, on a une cérémonie qu'on fait pas très souvent, mais qui est le portail du nectar. C'est un peu comme ça, hein, c'est un peu similaire à ça. Où on invite tous les esprits affamés à venir. À venir et on va le nourrir. Et il y a un moment où on fait tout un tas de bruit. On sonne les cloches, on amène les trucs de cuisine, bang, 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 bang. Tout le monde un peu chaotique, mais c'est très cadré. Et ça donne une force, cette cadre donne une force. Comme les rives vont donner une force à les rivières. S'il n'y avait pas les rives, la rivière, c'est une flaque d'eau. Mais quand il y a des rives, vraiment, ça donne une force. Et donc, ces rituels donnent une force aussi pour cadrer notre énergie, notre esprit, nos intentions. Bon, si on a écouté ce qu'il nous a dit à propos des cérémonies avant, on a peut-être compris ou non, mais le fait est qu'il y avait une intention pour envoyer avec la fumée des choses, le greed, anger, ignorance, etc., ce qu'on appelle les trois poisons. Il y avait une intention qui était encadrée par ce rituel, comme la rivière qui est encadrée par les rives. Ou que nous, on donne un cadre à notre assise. J'ai fait toute ma carrière en tant que journaliste, dans un quotidien. Et donc, c'est très intense comme énergie, mais super cadré. Il y a des bouclages, il y a des moments après lesquels on ne peut pas donner un papier. Il y a des réunions, il y a certaines choses qui vont être à la une, certaines choses qui vont être dans telle ou telle page, c'est très strict, il y a ce qu'on appelle un chemin de fer, on sait ce qui va être sur chaque page, etc. Et chaque article a une certaine longueur. Alors 750 mots dans le quotidien où je travaillais étaient beaucoup. Généralement, c'était 400-500 mots. C'est pas beaucoup, en fait. Et donc, il y a un art, une écologie, une économie de langage et de mots à tout faire rentrer avec élégance dans ce cadre de 750 mots. Ça a complètement transformé ma vie de poète, parce qu'en fait, je suis poète, mais les poètes ne gagnaient pas de sous. Donc, j'ai travaillé comme journaliste. Et cette structure, ce rituel a complètement transformé ma vie de poète. Quand j'ai ajouté à ça ma pratique zen, parce qu'à un moment j'ai ajouté ça, ma pratique zen, une rencontre avec le Dalai Lama, avait transformé mon travail de journaliste. Parce que c'était un autre cadre. Et ce cadre-là a donné. Mon travail de journaliste n'était pas pour moi, n'était pas pour que moi j'ai ma signature, la une, que moi j'ai l'article avant, j'ai le scoop, comme on dit, je ne sais pas si on dit ça en français, le scoop, avant que mes collègues dans un autre journal, ou que j'ai gagné les prix avec mon article. C'était un véhicule, moi-même j'étais le véhicule, j'étais un bocal. À travers les informations passées dans ce journal et au-delà. Donc, mon travail est devenu comment partager les informations de la façon la plus appropriée et juste pour le lectorat que les lecteurs que j'avais, qu'on avait, parce que ce n'était pas juste moi. Et c'était à l'intérieur de ce cadre-là. Si j'étais dans un autre cadre, si j'écrivais pour un autre journal, et parfois j'écrivais pour les revues bouddhistes, c'était un autre cadre. C'était des longs articles qui étaient moins intéressants, je trouve, mais c'était un autre sujet. Bien que j'ai fait un article quand Matthieu Ricard a sorti son premier livre. Avec son père, c'était le moine et le philosophe. J'ai fait un entretien avec lui, j'ai fait un article sur lui, dans ce quotidien qui était de tout ce qui est de plus ordinaire, normal, etc. Et qui était un article de, je ne sais pas, peut-être 800 mots, peut-être. Et puis, dans un autre cadre, une revue bouddhiste, ils m'ont demandé, et d'ailleurs c'était le Shambhala Sun. Qui était autrefois le journal de Shambhala. Et des pages, avec des photos et des extraits du livre, et tout un tas de trucs qui, dans un autre cadre, n'étaient pas appropriés. Et je pouvais parler de Matthieu Ricard et ce qu'il faisait autrement dans la revue bouddhiste que dans le quotidien. Mais c'est les structures qui imposaient ça. Et ça me donnait une énorme liberté. C'est la même chose pour nous. À l'intérieur des structures dans lesquelles on vit, on fonctionne, les cadres ici, il y a une énorme liberté. On n'a pas à réfléchir comment on va s'asseoir aujourd'hui quand on arrive ici, dans cette pièce. Évidemment, on va dire, oh, mes jambes me font mal, je vais prendre une chaise. Où je vais m'asseoir en César, où je vais être les jambes croisées, où je vais prendre un. Comment ça s'appelle ces coussins-là, carrés? Quoi? Gomden. Est-ce que je vais prendre un Gomden? Est-ce que je vais prendre un Zafou? Etc. Est-ce que je vais prendre une couverture? On a ça à réfléchir. Mais au-delà, non. On sait qu'on va arriver, on a notre place, on garde toujours la même place, ça fait partie du rituel. Pour cette raison-là, c'est une sorte de. Économie ou écologie qui nous laisse totale liberté d'être entièrement ici maintenant. Entièrement qui on est. Parce qu'on n'est pas encombré avec comment je veux m'asseoir, quand est-ce que je vais m'asseoir, avec qui je vais m'asseoir. Ce cadre est posé et à l'intérieur de ça, on peut être pleinement ici. C'est un soulagement, j'ai plus à penser à tout le reste. C'est juste ça. Alors évidemment, les formes et les rituels peuvent être détournés. Et on peut se confondre, on peut se tromper et croire que il s'agit de tout le but, c'est la forme ou le rituel. Il y a un film il y a longtemps qui était, ça s'appelait Neuilly ta mère. J'ai vu ça avec mon fils quand il était jeune. Oui. C'était une comédie qui se déroulait à Neuilly, qui est un banlieue chic de Paris. Et il y avait un jeune garçon des cités qui, pour une raison, c'est pas important, vient vivre dans cette famille, super bourgeoise, etc. Et à un moment, ils sont à table et le garçon prend c'est le moment de manger de la salade. Et le garçon prend sa fourchette et son couteau et il commence à couper sa salade. Et le père flippe totalement. Ne coupez pas la salade avec le couteau! Parce qu'apparemment, il ne faut pas, dans certaines familles bourgeoises, couper les salades avec le couteau. Quoi? Enfin bon, c'était ce qui était interdit dans le film. Alors probablement il y avait une raison à ça. Probablement il y a quelque part, ça a un sens, de ne pas utiliser son couteau pour couper la salade. Certainement. Mais si ça devient juste parce que, comme on dit, faire comme il faut, ça c'est autre chose. Il ne s'agit pas de faire comme il faut, il s'agit d'avoir une liberté de faire et respecter les cadres et les formes et les rituels nous aident à faire librement. Ça a l'air complètement contradictoire et c'est vraiment, ça n'a pas de sens, hein. Mais c'est ça. Enfin, si, ça a un sens, mais on pense que, ah non, si, il faut respecter les règles parce que comme ça, on sait ce qu'il faut faire. Mais si on est attaché aux formes, on sait seulement comment faire selon le rituel. On ne sait pas quel est vraiment juste à cet instant-là, ou tel et tel instant. Et donc, on a aussi cette l'orioki, donc on est confronté à ça 2 fois par jour depuis dimanche. Et ça a évolué pour tout le monde, hein. On est devenu calé en orioki, là. Hein. Et aussi bien les serveurs, le système. Probablement les serveurs avec la cuisine, chacun sa façon de faire, etc. Et ce qui est magnifique avec l'orioki, c'est que, comme j'avais dit, c'est un rituel qui veut dire juste la bonne quantité. Donc. Mais ça s'applique à chaque instant. Donc, chaque instant est orioki. Pas seulement quand on mange, là. Mais chaque instant, c'est orioki. Ça amène une écologie encore du nouveau, hein, encore. Bon, au cadre du repas, c'est une écologie de repas. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. C'est juste la bonne quantité. Et chacun juge qu'est-ce qui est de bonne quantité, de nourriture, de l'eau. Quel est le bon. Quand est-ce que c'est nettoyé, les mouvements, les bruits, comme j'avais dit, on est censé ne pas faire de bruit, mais c'est parce que ça devient de plus en plus subtil, les mouvements. Ça devient de plus en plus subtil notre expérience de ça. Parce que, en fait, dans cette. En anglais, on dit container, mais si je dis container en français, c'est pas vraiment ça. Dans ce bocal, dans ce vaisseau qui est orioki, peut-être, on verse nous. Chacun se verse entièrement dans cet vaisseau. Et on le voit. On voit qu'on est oublié, quand on est perdu, quand on ne sait plus où mettre la cuillère, on ne sait plus. On attend, on regarde les autres. On est space, c'est-à-dire qu'on a perdu le fil. On est resté en gâchot comme ça, tandis que tout le monde a passé à d'autres choses, parce qu'on est en train de réfléchir. Oui. Je regarde mes notes pour si j'avais oublié quelque chose à ce propos. Oui, ça nous révèle cette forme, cette rituel. On est révélé par ça, on est exposé. On avait fait un petit rituel là ce matin, après avec Herb, avec l'arbre, et il nous a montré une petite forme. On va devant l'arbre, on fait deux salutations, prosternations, on fait deux claps, on s'ouvre à l'arbre, on sent, etc., l'arbre. Donc, il y avait le petit rituel qui nous expliquait. Ben, je vous assure, ceux qui étaient présents peuvent témoigner, tout le monde l'a fait différemment, tout en faisant le même rituel. Et ce n'est pas du tout qu'on a fait mal, c'est juste qu'on se révèle complètement dans notre façon de faire. La façon de clapper était différente, la façon de posterner était différente. Il y en avait qui étaient plus ou moins souples, plus ou moins libres, probablement pour je ne sais pas quelle raison. Il faisait froid, donc il y en avait certaines qui étaient un peu des froids, plus ou moins self-conscious, comme on dit en français, comment on dit ça en français,
mal à l'aise,
conscience de soi, ou je sais pas. Et c'est ça qui se passe dans les rituels. Si on est très focalisé sur moi, ça va être moins libre, ça va être moins souple dans la forme que si on est libéré de ça. Et il y a différents degrés et différents moments où ça va intervenir. Ça nous oblige de prendre conscience qu'on est juste un... Nous-mêmes, on est un vaisseau animé par cette énergie, cette nature qui se manifeste de cette façon-là. Encore un exemple, parce que je trouve que les exemples sont très parlants, c'est pas parce que je veux me mettre en avant, hein, mais un exemple quand j'étais jeune maître, peu après que j'avais commencé tout ça, et c'était difficile de prendre cette place, hein, évidemment, c'était très très difficile. J'ai fini par le prendre parce que quelqu'un devait le prendre, mais je ne voulais pas vraiment. Et j'ai passé une crise où je voulais, tous ces trucs, les chants, les prosternations, les cérémonies, tout ça, ça m'écœurait. J'avais envie de vomir même. Et j'étais dans une grande retraite et je n'avais pas envie de le faire. Ce n'était pas moi qui dirigeais cette retraite, heureusement. Et donc, je ne le faisais pas. Je ne chantais pas quand il y avait des chants, je ne faisais pas les prosternations, ça dégoûtait. Et à un moment, le maître qui dirigeait cette retraite a décidé qu'il allait faire une sorte de prise de refuge pour tout le monde. Il y avait 300 personnes là. Et il a pris toutes les gens qui étaient reconnus comme maîtres. On était 9 et on était devant, comme ça. On était censé officier cette grande cérémonie de refuge qu'on appelle dans le zen Jukai. On prend les vœux. C'est l'équivalent pour les Tibétains de prendre les refuges, etc. Alors moi, je suis horrifiée. Oh non, je dois faire ce truc. Et je ne savais même pas le faire. Je ne l'avais jamais fait moi-même. J'étais autorisée à le faire, mais je ne l'avais jamais fait. Mais bon, j'ai accepté d'être assis là et on nous a donné tous un bol d'eau, comme ça, juste un bol ordinaire avec un eau de robinet. Et on avait coupé les roses et on avait chacun un rose, un bout de rose. Et on était censé que 300 personnes allaient passer devant nous avec les. C'était le maître de mon maître qui était animé par, qui avait connu Shogyam Trungpa, qui était très animé par ça et par le Karmapa et tout tibétain, et qui avait intégré les éléments tibétains. Donc il y avait un énorme tambour, il y avait. C'était pas le truc tibétain, c'était un autre. Je sais pas quoi. Faisait du bruit, beaucoup d'encens et des chants et tout ça. Et un par un, les 300 personnes passaient devant chacun de nous. Moi, j'étais presque au bout parce qu'il y avait mon frère Franck qui était après moi, plus jeune que moi. Et donc, quand les gens venaient, on était censé mettre. Ça fait partie du rituel de cette cérémonie de Jukai, censé prendre le rose. Mettre dans l'eau et mettre un peu d'eau sur la tête de la personne qui passait devant. Ça m'a. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien que je connaissais, etc., mais ça m'a. Bon. Je le faisais. Jusqu'à un moment où une personne, je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme, je ne sais même pas qui c'était, je ne connaissais pas cette personne. Je regardais, nos regards se sont croisés. Quelque chose dans le fait que nos regards se sont croisés, c'est un peu comme sur le dos de cet rakusu, mon maître a marqué A great round mirror transmits to a great round mirror. Donc un grand miroir rond transmet à un grand miroir rond. C'était un peu comme ça, je crois. On a croisé le regard. Et à cet instant-là, je me suis rendu compte que je n'étais que, comme je disais, un vaisseau ou un tuyau, carrément un tuyau, à travers lequel ça se passait. Et mon problème était que moi, Amy, se mettait à travers ce tuyau et donc évidemment c'était bloqué. Je me ramenais dans tous des rituels et toutes les formes, mes idées personnelles. Surtout, c'était que j'avais zéro confiance en moi. Et donc, ce manque de confiance manifestait comme doute et comme rejet. Évidemment, j'avais pas confiance en moi parce que c'est pas moi qui peux faire ça. Si, tant que je suis attachée à moi, je ne peux absolument pas faire tout ça, hein. Il faut que je accepte de laisser tomber ça. Et là, je suis libre. Là, je peux manifester ce qu'il fallait, ce que j'étais obligée de manifester. Pas obligée, mais ce qui était approprié à cet instant-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vidé sur. Non, c'est ça. Alors là, oui. Donc, on peut dire que le rituel, c'est Maizumi Roshi, le fondateur de notre lignage en Californie, qui avait dit le rituel rendre visible l'invisible, les aspects qu'on ne voit absolument pas régulièrement. Le monde de l'unité, comme j'ai dit, l'impersonnel, est visible. On le met en vue dans les rituels. Je sais que, en disant tout ça, ça a l'air très conceptuel. Et c'est vrai que c'est juste des mots et des concepts que j'essaie de mettre sur les expériences. Mais je vous encourage de regarder aussi bien quand on ne réfléchit pas et on fait juste ce qu'on demande de faire, de regarder quand on ne veut pas faire. Le fait que j'ai pu avoir cette expérience avec cette personne, c'est que j'allais à fond dans « je ne veux pas ». Je résistais absolument pas à ce « je ne veux pas ». Je déteste ça, je ne veux pas, c'est débile, non. J'allais à fond dans le « non » qui m'a permis à un moment de lâcher. Si j'avais juste fait un peu « non, je ne sais pas, ok, mais bon ». Non, c'était vraiment aller à fond, à 100%. Et de regarder donc, parce que c'est, il y a un certain émerveillement à ça. C'est-à-dire que, bon, ça peut être, par exemple, un autre exemple que je donne, c'est quand j'étais jeune et mes parents m'envoyaient au cours de tennis. J'étais très sportive, je voulais jouer au tennis, donc j'avais des leçons de tennis et j'adorais le tennis. Mais un des aspects que j'adorais, je crois, maintenant je sais, j'étais un enfant un peu curieux, un peu bizarre peut-être, mais j'adorais le rituel du tennis. Et il y avait une façon de tenir la raquette. Je sais, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours pareil parce qu'ils font des revers à deux mains. Donc moi, j'avais le coup droit et le revers. Et on tenait la raquette pas de la même façon. Pour d'autres gens ont joué au tennis ici. Ouais. Donc vous savez que c'est quand j'étais petite, c'était coup droit avait une façon et le revers l'autre. Il y avait une façon de jeter le ballon pour surfer. Et on a passé des cours à juste jeter le ballon, jeter le ballon, jeter le ballon, jeter le ballon. Et je me suis rendu compte, j'avais peut-être 8-9 ans, je me rendais compte qu'il y avait, après des dizaines de fois, boum, il y en avait un qui était juste. Et c'était juste parce que je n'étais pas en train de penser, c'était que, ouf, c'était juste. Et c'était juste pour frapper parfaitement. Et puis, la fois d'avant, ce n'était pas juste. Et c'était des centaines d'heures à jeter le ballon comme ça. Et il y avait une façon de bouger les pieds, une façon de tourner comme ça, de tourner comme ça, de pencher, de plier les genoux, etc. Il y avait des lignes très précises. Quand on jouait au double, ce n'était pas les mêmes lignes que quand on est joué au simple, etc. Tout ça, j'avais adoré. Et il y avait des moments de grâce où on frappait le ballon. C'était mais inouï, le coup. On ne savait pas comment on avait envoyé ce coup. C'était mais... Et c'était génial. Juste au bon niveau, niveau, juste arriver pile où ça devait arriver, etc. Et quand on a commencé à apprendre, tout était décortiqué. Mais si quand on allait sur le court et on jouait, si on réfléchissait à « Ah, maintenant il faut faire ça, maintenant il faut faire ça, maintenant il faut faire ça », ça ne marchait pas. Tout était en harmonie quand on lâchait notre idée de comment faire, pas faire, moi je, etc. Et bon, les joueurs de tennis de haut niveau, ils ont des tics pas possibles. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont tellement répété, ils ont tellement trouvé où c'est le juste, qu'ils répètent toujours la même chose. Et parfois, c'est pas juste. C'est pas toujours juste. C'est ça la beauté aussi du jeu. C'est la beauté de la vie. C'est impermanent. Donc on peut apprendre les règles, on apprend les rituels parfaitement. Mais c'est pas ça dont il s'agit. Il faut vivre là-dedans. Il faut se mettre dedans entièrement tout en restant dans le cadre de ce qui est, parce que notre vie est un cadre. Il y a une naissance et il y a mort. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce cadre? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on chante le soir. Attention, ne gaspillez pas votre vie. C'est ne gaspillez pas cette goutte dans l'orioki. Tous ces rituels, toutes ces formes, c'est pour ça. J'entends que le rituel de chercher les plats pour l'orioki est en marche, donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, donc j'ai trop parlé. Donc si, est-ce que vous avez des choses à partager, ou questions, ou réflexions, expériences?
Systématiquement sur le Limousin, c'est-à-dire ici, et qui vont jusqu'en Suède, mais hier soir, elles sont arrivées en Allemagne. Donc elles sont parties hier matin d'Espagne, elles sont passées ici, alors c'était magnifique ce changement de forme, justement. Ils étaient à peu près à mi-parcours jusqu'à l'Allemagne, et après, je suppose qu'il y a la dernière étape aujourd'hui pour aller en Suède. Et alors, je ne sais pas si c'est. Hier, il y a eu, donc ils étaient nombreuses, mais je sais pas si il y en a tous les jours, ça se fait fin février, donc hier c'était le dernier jour de février, je ne sais pas si encore ce soir, 1er mars, il y en aura ou pas. Donc voilà, je vais partager ce soir, en fin d'après-midi, donc elle passe ici en fin d'après-midi, donc entre 6h et 6h30. Enfin, hier c'était le cas peut-être.
Et donc, eux, ils ont leur rituel, leur forme, qui respectent. Et c'est pas possible, j'imagine, de faire tout ça s'ils respectent ça, hein, probablement. Magnifique. Ouais.
Je crois que c'est une histoire de mort. Hein. S'il y en a un qui n'est pas dans la forme,
Ouais.
il n'a pas assez d'énergie pour
Ouais.
continuer. Quoi. Ouais, ils utilisent leur énergie. Hein. Les uns avec les autres pour pouvoir continuer quoi.
Bah oui. Oui, absolument, hein. Tout à fait, parce que là c'est un autre volet de ça, mais oui, absolument, parce que le sutra du cœur, tout le monde connaît plus ou moins ce que c'est le sutra du cœur. Ouais. C'est oui, c'est la forme est vide et la vie des formes. Et que, bon, disons que quand on peut expérimenter, quand on peut avoir un aperçu de cette nature essentielle, ce qu'on peut appeler le vide, ce qu'on peut appeler l'absolu, qu'on peut appeler le rien, et tout un tas de choses, de mots qu'on peut mettre là-dessus, on voit que la forme est ça, et que ce n'est pas autre chose que ça. Et la seule façon qu'on peut expérimenter cette vide, on dit, c'est à travers les formes. Autrement, on ne peut pas l'expérimenter. C'est la façon dans notre vie, dans notre forme qu'on a, dans notre monde, c'est comme ça que ça se manifeste. Et donc, c'est oui, le vide est forme et la forme est vide. Ouais. Ça ne veut pas dire que quand je dis rien, ce n'est pas le rien quand on pense d'habitude. Oui.
Mais du coup, toi, tu as utilisé plutôt le terme de nous donne la liberté de je ne sais quoi, d'ailleurs, une forme de liberté à l'intérieur.
Oui, parce que. Oui, oui, tout se joint en fait. Mais oui, parce que cet espace qu'on appelle vide, ou qu'on appelle la nature, ou l'absolu, c'est le lieu, entre guillemets, de toutes les possibilités. On a étudié ça récemment dans nos études, non ? Ou c'était quoi ?
Études des textes.
Peut-être, oui. Que c'est le... Tout est possible. Tout est possible dans cette... C'est même pas dans. C'est toutes les possibilités, c'est ça. Et on dit « emptiness » en anglais, ou « vide », mais on peut aussi dire « fullness » ou « plénitude ». C'est plein de tout. C'est pour ça que c'est vide, parce que c'est plein de tout. C'est vide de quelque chose de personnel, comme j'ai dit. Et donc, tout est là. Tout y est. Tout est possible parce que ce n'est pas limité à juste ceci. Donc, dans l'histoire des oiseaux, oui, c'est que tout est possible dans cette forme parce que s'il y a, disons, deux oiseaux qui décident, ah non, on va faire notre truc, ils ne vont pas survivre. Parce que cette forme exige, donne cette force de vie. Quoi. Quand on le limite, la forme, quand on le limite à juste cette forme-là, ce n'est pas juste par rapport à l'interdépendance et la nature de toute chose. C'est ça que tu voulais dire que... Non, c'est pas... La liberté, c'est... Oui, effectivement, on a toutes les possibilités. Absolument, c'est ça.
C'était un Tibétain, d'ailleurs, qui a...
Oui, mais je ne me souviens pas comment il s'appelait.
Ouais.
Et il est l'heure, donc. Le cadre nous dit que... Oui.
Je sors un peu du cadre. En fait, le cadre enferme si on s'attache à la forme.
Oui, okay. Bien vu. Oui. Oui, tout à fait.
Parce que...
C'est ça.
Ouais. Cadre, okay.
Ouais. Oui. Et comme tout attachement, ça va nous fermer, nous enfermer.
C'est pas le cadre lui-même qui fait.
Non, c'est notre attachement au cadre. Exactement, c'est ça. Bon, sur ça, on va passer à un autre rituel pour manger ensemble. Merci.